La Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses dans le monde dans un but précis. Les plantes ont été créées dans un but précis, les animaux aussi, et les êtres humains également. Dieu n'a jamais rien créé sans avoir un objectif en vue. Chaque chose que Dieu a créée a une fonction bien particulière. Et dans cette session, on va se poser la question, quel est l'objectif de l'Église? Spécifiquement, on va étudier les 5 objectifs de l'Église du Nouveau Testament que Dieu a prévus pour l'Église. Trop souvent, en tant que responsable, on ne se pose pas la bonne question. On se pose la question, que faut-il pour que mon Église grandisse? En fait, on doit se poser la question, qu'est-ce qui fait obstacle à la croissance de mon Église? Quelles sont les barrières qui l'empêchent de devenir conforme au plan de Dieu? Vous savez, tous les êtres vivants grandissent. C'est naturel pour les êtres vivants de grandir. Ce n'est pas naturel qu'ils ne grandissent pas. J'ai 3 enfants, et c'est naturel pour mes enfants de grandir. Si je disais à mes enfants, je vous ordonne de grandir, ce serait ridicule. Je n'ai pas besoin de faire cela. S'ils sont en bonne santé, ils vont grandir. Donc je crois que ce qu'on doit faire, c'est étudier ce qui rend l'Église saine. Une fois que l'Église est saine, elle va grandir automatiquement. La question devient, que faut-il faire pour qu'elle soit saine? La réponse est l'équilibre. L'équilibre rend un corps sain, et l'Église est le corps du Christ. Savez-vous que votre corps est composé de 9 systèmes différents? Vous avez un système circulatoire qui fait circuler le sang dans tout votre corps. Vous avez un système respiratoire, système de respiration, qui fait circuler l'air dans tout votre corps. Vous avez un système squelettique composé de tous les os de votre corps. Vous avez un système nerveux. Vous avez un système digestif qui vous permet d'éliminer la nourriture que vous avalez. Et lorsque ces systèmes sont en équilibre, nous sommes donc en bonne santé. Si un de ces systèmes est déséquilibré, alors c'est ce qui cause une infection ou une maladie. De même, l'Église est un corps. La Bible appelle l'Église le corps du Christ. Et il existe des systèmes dans le corps du Christ. Il y a 5 systèmes, 5 objectifs. Et lorsqu'ils sont en équilibre, ils produisent une bonne santé. Et une bonne santé produit automatiquement la croissance. Souvent, au cours des conférences pour des responsables d'Église, nous n'entendons parler que d'un seul système. Vous y allez, vous entendez des gens dire « Voilà la solution pour aider votre Église à grandir, comme s'il n'y en avait qu'une ». Ils vont vous dire « Oh, la solution pour votre Église, ce sont des petits groupes. Si vous avez des petits groupes, votre Église va grandir. » Ou lors d'une autre conférence, vous entendrez dire « Oh, la louange, c'est la clé de la croissance. Si vous avez des bons services de louange, votre Église va grandir. » Ou dans une autre conférence, ils disent « Non, non, c'est la formation des disciples. Aider les chrétiens à grandir spirituellement, c'est la clé de la croissance. » Ou lors d'autres conférences, ils vont vous dire « Non, il faut inviter les gens au ministère de l'Église. Ça, c'est la clé de la croissance. » Et lorsque vous participez à ces conférences, ou si vous lisez différents livres, vous commencez à vous dire « Je suis confus. » Qui a raison? Eh bien, la réponse est qu'ils ont tous raison. Ils ont tous raison. Ils donnent tous une image réelle, mais partielle, de l'Église. Et au cours de cette conférence à laquelle nous prenons part, j'espère pouvoir vous démontrer, dans une perspective plus large, comment ces 5 objectifs sont nécessaires dans l'Église. Et lorsqu'ils sont en harmonie, ils produisent une bonne santé. Et lorsque votre Église est saine, elle produit la croissance. Savez-vous que si vous cherchez le verbe « conduire », dans un dictionnaire, cela signifie guider, contrôler ou diriger. Lorsque les gens conduisent une voiture, ça signifie qu'ils conduisent, qu'ils guident et qu'ils contrôlent ou qu'ils dirigent cette voiture dans la rue. En anglais, le verbe conduire est aussi utilisé pour planter un clou avec un marteau. Lorsque nous plantons un clou dans le bois, ça veut dire guider, contrôler, diriger le clou dans le bois. Chaque église est contrôlée ou dirigée par quelque chose. Certaines églises sont contrôlées ou dirigées par des traditions, et les chrétiens de ces églises agissent toujours de la même manière, et ils n'en sont pas vraiment conscients, ils disent « Nous avons toujours fait cela de la même manière, et nous, donc nous allons prêcher de cette manière-là, nous allons chanter de cette manière-là, et nous allons avoir des programmes de cette manière-là, parce que nous procédons ainsi de génération en génération. » Certaines églises sont contrôlées par des fortes personnalités. C'est un responsable spirituel ou peut-être le pasteur ou un ancien ou un responsable important dans votre église qui a une personnalité de dirigeant. Et il semble tout contrôler et chacun fait ce qu'il veut. Le problème avec une église contrôlée par une forte personnalité, c'est qu'est-ce qu'il va se passer quand cette personne meurt? Souvent, l'église s'effondre et ne grandit pas aussi sainement que Dieu l'avait prévu. Et souvent, elle n'est pas équilibrée. Certaines églises sont contrôlées ou guidées par leurs finances. J'ai voyagé tout autour du monde et l'une des plaintes les plus courantes des responsables d'église, c'est « nous n'avons pas assez d'argent ». Dans cette conférence, je vais vous montrer que vous n'avez pas besoin d'argent pour faire croître une église. Vous devez simplement suivre les 5 objectifs bibliques et construire votre église sur ces objectifs. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 21, il est écrit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit ». Portez attention à ce que cela veut dire, parce qu'en tant qu'être humain, nous avons toutes sortes d'idées. Nous avons nos plans, nous avons nos programmes. Mais si vous voulez construire sur quelque chose de solide, vous devez construire selon les plans de Dieu, parce que c'est ça qui va durer. Le reste va sûrement disparaître, mais les plans de Dieu sont éternels. Maintenant, Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 16, il a dit, « Je bâtirai mon église. » Et la mort elle-même ne pourra rien contre elle. Écoutez bien ce verset. Jésus dit, « Je bâtirai mon église. » Il y a deux choses importantes là. D'abord, l'église, c'est quelque chose qu'il faut bâtir. Et deuxièmement, l'architecte doit être Jésus-Christ. Alors, pourquoi avons-nous organisé une telle conférence? Parce que la Bible nous dit que Dieu utilise des personnes pour construire son église. Écoutez bien cela. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 14. Selon la grâce de Dieu, c'est Paul qui parle, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car le jour du jugement la révélera, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Remarquez que Dieu utilise des personnes pour construire son église. En effet, Paul dit, je suis un sage architecte. Et je veux que vous sachiez, puisque nous commençons ensemble cette conférence, que ma prière pour vous soit que vous deveniez des sages architectes pour construire l'Église de Dieu. Je veux aussi que vous remarquiez que ce verset dit que l'épreuve de votre ministère n'est pas liée à la grandeur de votre Église, ni à la célébrité de votre Église, ni à la richesse de votre Église. Mais l'épreuve de votre ministère est de voir s'il va durer. La Bible dit que lorsqu'on construit sur les objectifs de Dieu, nous allons construire une fondation durable. Et Dieu va pouvoir faire grandir ce ministère dans les années à venir. Pour devenir une église menée par ses objectifs, vous devez faire 3 choses. Premièrement, vous devez découvrir quels sont les objectifs de Dieu et les définir dans votre église. Et puis deuxièmement, vous devez communiquer régulièrement ces objectifs aux chrétiens de votre église pour que chacun comprenne pourquoi l'église existe et pour que chacun connaisse le plan de Dieu pour leur église. Et troisièmement, vous devez appliquer ces objectifs de Dieu dans tous les différents domaines de votre Église et organiser votre Église autour des 5 objectifs bibliques. Voyons cela de plus près. Premièrement, comment pouvez-vous découvrir et définir les objectifs de Dieu pour votre Église? C'est la toute première étape dans la croissance de l'Église. Si vous vous implantez une nouvelle Église, vous commencez dès sa fondation et avant de faire quoi que ce soit. Vous devez découvrir et définir les plans de Dieu pour votre Église. Pourquoi existons-nous? Pourquoi faisons-nous telle et telle chose? Pourquoi allons-nous faire l'effort de construire cette Église? D'autre part, si vous êtes une Église déjà existante, et que votre Église semble être découragée, ou si elle ne semble pas grandir, ou même si elle diminue, alors vous devez redéfinir les objectifs de Dieu pour votre Église, et recapturer la vision afin de savoir pourquoi Dieu a créé l'Église en premier lieu. Les églises qui croissent ont une identité très claire. Elles comprennent leur raison d'être. Elles connaissent parfaitement le plan de Dieu. Elles savent ce que Dieu attend d'elles. Cependant, en voyageant autour du monde, j'ai trouvé que les gens sont confus au sujet de l'Église. Ils ne savent pas pourquoi l'Église existe. Ils savent que Dieu veut que les chrétiens s'assemblent, mais ils ne savent pas pourquoi nous nous assemblons. Et si vous demandez aux chrétiens typiques « Quel est l'objectif de l'Église ?», vous allez recevoir des réponses vagues et remplies de confusion. Maintenant, avant de vous montrer comment vous pouvez découvrir et définir les objectifs de votre Église, je vais d'abord vous donner 5 raisons pour que vous sachiez pourquoi cela est important. Pourquoi il est important de comprendre les objectifs que Dieu a donnés à l'Église? Premièrement, cela donne une valeur morale aux chrétiens de votre Église. Un objectif commun réduit les conflits. Souvent, dans une Église, vous allez trouver des chrétiens qui ne sont pas en accord avec ce qui doit être fait, parce qu'il n'y a pas d'objectif clair et commun. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 1:10, Ayez tous un même langage dans l'Église et n'ayez pas de division entre vous, mais soyez parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Vous avez entendu ça? Dieu désire que nous soyons unis en un seul esprit, une seule pensée et un seul objectif. Rien ne décourage plus l'assemblée des fidèles que l'ignorance de son existence. Et si votre Église est découragée, vous devez redéfinir sa vision en redécouvrant l'objectif que Dieu a créé pour elle. Ce ne sont pas les programmes qui motivent, ce sont plutôt les plans de Dieu. La deuxième raison pour laquelle vous devez définir vos objectifs, c'est que ça réduit la frustration. Ça réduit la frustration. La Bible dit dans Isaïe 26, verset 3, « À ceux qui sont fermes dans le sentiment, tu assures la paix parce qu'ils font confiance en toi. » Vous savez, votre Église n'a pas le temps de tout faire. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne vous demande pas de tout faire, principalement parce qu'il n'y a que certaines choses qui valent la peine d'être faites. Une déclaration d'objectif, quand chacun y consent et la comprend, ça ne définit pas seulement ce que l'Église fait, mais définit aussi ce que l'Église ne fait pas. Elle définit ce que sont les affaires de l'Église, quelle est notre raison d'être, et quelles ne sont pas nos affaires, et quelle n'est pas notre raison d'être. Jacques chapitre 1, verset 8 dit, « Celui qui est irrésolu est indécis dans toutes ses voies. » Si vous essayez de diriger une Église sans objectif précis, vous allez causer de la confusion générale dans votre Église parce que vous n'avez pas fixé d'objectif précis. Mais quand vous connaissez vos objectifs, c'est plus facile de prendre des décisions. À chaque fois que vous voulez organiser des événements, ou un service, ou un nouveau ministère, posez-vous cette question. Est-ce que cela va nous aider à atteindre l'objectif que nous avons fixé? Si cet objectif est atteint, alors lancez-vous. Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas. Si vous n'avez pas d'objectif clair pour votre Église, si ce n'est pas bien défini, vous allez probablement devenir comme Ésaïe. Dans Ésaïe 49, verset 4, où il a dit « J'ai travaillé en vain, j'ai consommé ma force en vain, et pour rien ». Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont découragés et beaucoup de responsables d'église sont découragés. Et une des raisons, c'est que nous avons perdu notre vision. Nous avons perdu notre raison d'être. Nous ne savons pas ce que Dieu nous a appelés à faire. C'est pourquoi on doit redéfinir nos objectifs. Troisièmement, avoir un objectif clair permet la concentration. Ça vous permet de garder vos priorités et ça vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Vous allez enfin vous occuper des problèmes majeurs et non de ce qui n'est pas important. Savez-vous que quand la lumière est bien focalisée, elle a une très grande puissance, mais si la lumière n'est pas bien focalisée ou diffusée, elle ne possède pas beaucoup de puissance. Quand le soleil vient sur mon corps, à la lumière du jour, il n'a pas beaucoup de puissance. Mais alors si je prends une loupe et si je focalise cette lumière en la rendant plus concentrée, ça pourrait prendre feu. Ça pourrait créer, et en fait, si vous vous rapprochez cette lumière beaucoup plus près, ça peut créer ce qu'on appelle un laser. Et la lumière focalisée de cette manière peut brûler à travers le bois, la pierre, l'acier et les bâtiments. Et si vous voulez une vie bien focalisée, alors votre vie aura une grande puissance. Et si votre Église est bien focalisée, alors votre Église aura une grande puissance. La triste vérité, c'est que beaucoup d'Églises essayent de faire trop de choses. Elles manquent de concentration. Elles font quelque chose ici, puis elles font autre chose là, et elles participent à ce programme et cet événement, à cette activité, mais il n'y a pas de direction générale pour guider l'Église sur la bonne voie, concentrée sur une seule chose. Quand vous n'avez pas d'objectif précis, vous finissez par perdre beaucoup de temps en faisant des choses non importantes. Quatrièmement, avoir un objectif précis incite à la coopération. En d'autres termes, les gens veulent aider. Ils veulent faire partie de votre Église quand l'Église sait où elle va. Le peuple de Dieu a dit à Esdras dans Esdras chapitre 10, verset 4, il a dit « Explique-nous comment nous devons régler cette affaire, et alors nous serons avec toi. » Il voulait participer au plan de Dieu parce que c'était une vision claire. Paul a dit aux Philippiens, il a dit « Vous m'avez aidé au service de l'Évangile. Pourquoi ?» Pourquoi était-il une aide pour Paul? Parce que Paul savait où il allait. Il connaissait l'appel de Dieu pour sa vie. Il avait un objectif précis. La Bible dit que si vous avez de bons objectifs, vous serez respecté. Et quand vos objectifs sont clairs, les gens vont vouloir coopérer et y participer. La cinquième raison pour définir les objectifs de votre Église, c'est que ça vous permet de faire une évaluation. Ça vous permet d'examiner votre Église et de juger justement si votre Église est saine ou si elle ne l'est pas. Si votre Église va grandir ou si elle ne grandira pas. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Examinez-vous. La Bible nous dit qu'on doit régulièrement s'examiner soi-même pour être certain qu'on fait ce que Dieu veut que l'on fasse. Quand vous avez clairement défini les cinq objectifs de Dieu, vous établissez un niveau standard pour l'Église. Et puis vous pouvez évaluer tout ce que vous faites en vous demandant « Est-ce qu'on se maintient au niveau standard de Dieu pour notre Église ?» Maintenant, voyons comment nous pouvons définir les objectifs de Dieu en quelques minutes. Il y a plusieurs étapes. D'abord, avec vos membres, étudiez les passages bibliques sur l'Église. La première chose que vous devez faire, c'est étudier la Bible, le Nouveau Testament, et trouver ce que Dieu dit au sujet de l'objectif de l'Église. Et en lisant ensemble les Écritures, vous allez voir que certaines vérités font surface. Mais il y a plusieurs choses que vous devez étudier en particulier. D'abord, vous devez étudier le ministère de Christ sur terre. Lisez la vie de Christ et regardez ce que Jésus a fait. Et ensuite, demandez-vous, qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il était ici sur terre? Parce que tout ce que Jésus a fait lorsqu'il était ici dans son corps physique, il veut le continuer aujourd'hui dans son corps spirituel. Où est le corps du Christ aujourd'hui? Eh bien, il est dans l'Église. L'Église est le corps du Christ. Et donc, qu'est-ce que Jésus ferait aujourd'hui? Il ferait la même chose qu'il a fait il y a 2000 ans, quand il était sur cette terre. Et tout ce qu'il a fait à son époque, nous devons le continuer aujourd'hui. Vous devez aussi étudier les images de l'Église, les noms de l'Église. Vous savez, dans la Bible, l'Église a beaucoup de noms différents. Elle est appelée le corps du Christ. Elle est appelée l'épouse, la femme du Christ. La Bible appelle l'Église la famille de Dieu. L'expression préférée de Jésus, c'était « petit troupeau ». Il appelait l'Église « mon troupeau », comme un troupeau de moutons, et il dit « je suis le bon berger ». La Bible appelle l'Église une communauté de croyants. La Bible appelle l'Église l'armée de Dieu. Chacun de ces mots, ou de ces termes, et il y en a beaucoup d'autres, nous révèle beaucoup de choses sur ce que l'Église devrait faire. Donc étudiez cela en profondeur et en détail. Réfléchissez et priez, et demandez à Dieu de vous aider à comprendre ce que cela signifie concernant ce que Dieu attend de l'Église. Une troisième chose que vous devez étudier, ce sont toutes les églises du Nouveau Testament. Il y avait beaucoup d'églises dans le Nouveau Testament. Il y avait une église de Jérusalem, il y avait une église à Corinthe, il y avait une église à Philippe, il y avait une église à Thessalonique. Et chacune de ces églises était différente, mais elles avaient toutes un objectif commun. Et quand vous étudiez les églises du Nouveau Testament, vous allez commencer à comprendre le plan de Dieu pour sa création merveilleuse appelée le corps du Christ. La quatrième chose qu'il faut étudier, ce sont les instructions spécifiques du Christ. Jésus nous a donné des instructions spécifiques que tous les chrétiens doivent suivre. Et il est évident que s'il commande aux chrétiens de faire certaines choses, l'Église doit aussi les faire. Faites une liste des instructions du Christ et étudiez-les ensemble. Voilà, je viens de partager en quelques minutes ce qu'il vous faut étudier. Cela peut prendre 6 mois ou même une année d'études où vous étudiez avec vos membres. Guidez-les dans une étude approfondie de ce qui est l'Église et de ce que Dieu attend de l'Église. À la fin de cette session, il y aura une liste disponible contenant les versets bibliques les plus importants que vous devez étudier et qui concernent l'Église. En faisant cette étude, rappelez à vos membres que notre travail n'est pas d'inventer les objectifs de l'Église. Notre travail, c'est simplement de redécouvrir les objectifs. C'est l'Église de Dieu, et donc c'est lui qui décide quels sont ses objectifs. Nous ne prenons pas de décision, Dieu les prend. On doit juste les redécouvrir. Et chaque génération de chrétiens doit redécouvrir les objectifs de l'Église. Maintenant, quand vous commencez à lire ces nombreux versets dans la Bible, il y a 2 questions que vous devez vous poser. Vous devez vous demander, que devons-nous être comme Église? Et que devons-nous faire en tant qu'Église? Et en vous posant ces questions-là, vous allez commencer à faire une liste de choses que Dieu vous dit en réponse à ces questions. Et je suggère que vous preniez une feuille de papier et que vous commenciez à écrire tout ce que Dieu vous dit au sujet des objectifs de l'Église. Et vous allez remarquer que beaucoup de versets dans la Bible disent la même chose. Quand j'ai commencé cela dans mon église, j'ai pris 5 grandes feuilles de papier et nous les avons affichées sur le mur. Et ensemble, en tant qu'église, nous avons lu un verset et puis j'ai dit, que dit ce verset sur ce que l'église doit faire? Et par exemple, ils ont dit, là, il est dit que nous devons louer. Et on a dit, ok, écrivons sur cette feuille de papier qu'on doit louer Dieu. Puis on a trouvé un autre verset et on s'est demandé, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit qu'on doit aider les chrétiens à grandir. Donc c'est un autre objectif de l'église. Et puis nous avons écrit. Et puis on a trouvé d'autres versets qui disent, « Oh, le devoir de l'Église, c'est la communion fraternelle, se soutenir les uns les autres en tant que chrétiens dans la famille de Dieu. » Donc on a écrit tous les versets qui parlent de la communion fraternelle sur une feuille de papier. Ensuite, en lisant d'autres versets, on en a trouvé qui disent que les chrétiens doivent aider les autres et répondre aux besoins des autres. Il faut démontrer l'amour de Dieu de manière pratique. Et alors nous avons écrit tous ces versets sur une autre feuille de papier. Et finalement, nous avons trouvé beaucoup de versets concernant notre responsabilité de partager la bonne nouvelle, d'enseigner l'Évangile, partager avec des non-croyants, et le témoignage ou la fonction d'évangélisation de l'Église. Et nous avons écrit tous ces versets sur une autre feuille de papier. Quand nous avons commencé à étudier tous ces versets bibliques, nous avons remarqué que beaucoup de versets se trouvent dans une des 5 catégories suivantes, la louange, ou l'évangélisation, ou la communion fraternelle, ou l'enseignement, ou le ministère. Après avoir étudié tous ces versets, et cela nous a pris des mois, nous avons commencé à résumer toutes nos réponses, parce que votre but est en fait d'arriver à rédiger une déclaration d'objectif qui tient en une seule phrase. Vous voulez obtenir une déclaration d'objectif que chaque personne peut mémoriser dans votre église. Vous devez donc résumer votre objectif en une seule phrase. Maintenant, je vais vous donner les caractéristiques d'une bonne déclaration d'objectif. Des églises différentes vont utiliser des mots différents, et bien sûr, dans des différentes cultures, on aura des exemples et des illustrations différentes. Mais les objectifs de Dieu ne viennent pas seulement d'une seule culture, comme l'Amérique du Sud, ou l'Amérique, ou l'Asie, ou l'Europe, ou l'Afrique. Les plans de Dieu se trouvent dans la Bible. Et si l'objectif est biblique, alors chaque église doit l'atteindre, peu importe le pays où l'église se trouve. En rédigeant votre déclaration d'objectif, il doit comprendre 4 caractéristiques. Premièrement, il doit être biblique. Il doit être fondé sur les Écritures. Bien évidemment, la déclaration d'objectif pour votre Église doit être basée sur ce que la Bible dit. Tel que je l'ai déjà mentionné, ce n'est pas nous qui choisissons les objectifs de l'Église. C'est Dieu qui nous dit pourquoi il a créé l'Église. Et on fait uniquement ce qu'il nous dit de faire. Mais on peut choisir le style dans lequel on va réaliser ces objectifs. Par exemple, un des objectifs de l'Église est de louer Dieu. Mais Dieu dit qu'il y a beaucoup de styles de louange. Approprié si c'est fait en esprit et en vérité. La deuxième chose que vous devez faire, c'est d'être spécifique. Votre déclaration d'objectif doit être très claire, pas floue, ni vague, ni générale. Par exemple, j'ai parlé à des gens qui m'ont dit, l'objectif de notre église est de glorifier Dieu. Bien sûr, il faut glorifier Dieu. C'est l'objectif de l'église. Mais comment mesure-t-on cela? Spécifiquement, comment glorifiez-vous Dieu? Au bout d'une année, si vous évaluez votre Église, comment pouvez-vous démontrer et dire « On a glorifié Dieu de cette façon-ci » Vous devez être spécifique. Rien ne devient dynamique si ce n'est pas d'abord spécifique. Et plus votre déclaration d'objectif devient spécifique, plus il vous sera possible de mobiliser vos membres à servir le Seigneur Jésus-Christ. Aussi, votre déclaration d'objectif doit être transmissible. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez la capacité de le transmettre à d'autres. Si votre déclaration d'objectif est très longue, les gens ne pourront pas s'en souvenir. En réalité, plus elle est brève, mieux c'est. Aux États-Unis, beaucoup d'entreprises ont une déclaration d'objectif. Et plus la rédaction de leur objectif est brève, mieux c'est. Certains d'entre vous ont sûrement entendu parler du parc d'attractions que nous avons en Amérique et qui s'appelle Disneyland. La déclaration d'objectif de Disneyland contient seulement 4 mots. Rendre les gens heureux. C'est une déclaration d'objectif très simple. Leur objectif est simplement de rendre les gens heureux. Je pense que quand vous travaillez à votre déclaration d'objectif, plus elle sera courte, mieux ce sera. Et puis, bien sûr, votre déclaration d'objectif doit être mesurable. Vous devez pouvoir regarder en arrière et vous demander comment pouvons-nous évaluer notre Église en nous basant sur ce que Dieu nous a dit de faire. Je vais maintenant vous donner un exemple, la déclaration d'objectif que nous utilisons dans notre Église. Si vous voulez utiliser la nôtre, ça va. Mais je ne veux pas que vous court-circuitiez votre étude des Écritures. Vous devez guider vos membres à faire une étude. Ne dites pas, voici notre déclaration d'objectif. Guidez-les à travers les passages bibliques que nous allons vous donner et découvrez ensemble ce que Dieu vous dit de faire dans votre Église. Il y a plusieurs années, j'ai fondé l'Église appelée Saddleback Valley Community en Californie du Sud, en Amérique. Et j'ai commencé avec ma femme, ma fille, qui avait seulement 4 mois, et une autre famille. Donc nous avons eu un service plutôt petit au début. Il y avait 7 personnes au premier service de l'Église. Et nous avons commencé à étudier les Écritures ensemble. J'ai commencé par prier, par dire, Dieu, donne-moi une déclaration qui soit très claire et très courte, afin que nous puissions avoir une déclaration sur laquelle nous pourrons ensuite bâtir l'Église de Dieu. Et Dieu m'a donné cette phrase. Un grand engagement envers le grand commandement et la grande mission produira une grande Église et produira de grands chrétiens. Je répète. Un grand engagement envers le grand commandement et la grande mission produira de grands chrétiens et une grande Église. Nous avons découvert que les 5 objectifs de Dieu, bien qu'ils soient présents dans beaucoup de passages dans la Bible, se trouvent spécifiquement dans ces 2 versets de Jésus que nous appelons le grand commandement et la grande mission. J'aimerais qu'on s'attarde sur cela pendant quelques minutes en étudiant ce que Dieu dit au sujet de l'Église. Un jour, un homme est venu à Jésus et lui dit, « Jésus, quel est le plus important des commandements ? Si je devais en savoir un seul, quelle est la chose la plus importante ?» C'est dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Et Jésus a dit ceci, « D'accord, je vais résumer toute la Bible, toute la loi et les prophètes se résument ainsi. » Il a dit, « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements, et le second lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que nous appelons le grand commandement. Jésus a dit qu'on doit faire 2 choses, aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ces deux commandements forment le grand commandement. Et Dieu dit que si vous devez résumer toute la Bible, tout se trouve dans ces 2 phrases. Donc il est évident que Dieu veut que l'Église fasse ces 2 choses. Premièrement, on doit aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, puis on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ensuite, Jésus nous a donné la grande mission. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Dans cette grande mission, Jésus dit, « Je veux que vous fassiez 3 choses. Je veux que vous alliez faire des disciples. Je veux que vous les baptisiez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, je veux que vous leur enseigniez toutes les choses que je vous ai commandées. » Donc, Jésus donne 2 ordres dans le grand commandement, et il donne 3 ordres dans la grande mission. Et avec ces 2 versets, nous obtenons les 5 objectifs de l'Église. Je vais vous expliquer cela. D'abord, Jésus dit, « Aime le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. » Le mot biblique pour cela, c'est la louange. La louange, c'est simplement exprimer votre amour à Dieu. Chaque fois que vous exprimez votre amour pour Dieu, vous le louez. Ça n'a pas d'importance si vous le louez dans une foule de 50 personnes, ou de même 100 personnes, ou même plus. Peu importe si vous le louez en petit groupe dans une maison avec 5 ou 6 ou 10 personnes. Ou peu importe si vous le louez tout seul ou bien en famille. Chaque fois que vous exprimez votre amour à Dieu, vous le louez. Et ça, c'est le premier objectif de l'Église. Apporter notre louange à Dieu, parce que la Bible dit qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur. Ensuite, Jésus dit, « Aime ton prochain comme toi-même. » Le mot biblique pour cela est « ministère » ou « service ». Chaque fois que vous aimez votre prochain comme vous-même, de manière pratique, vous subvenez aux besoins de cette personne. La Bible dit que si vous donnez un verre d'eau froide au nom de Jésus, c'est un ministère. La Bible dit que quand vous aidez les gens de manière pratique, c'est un ministère. Le ministère, ce n'est pas quelque chose réservé seulement aux pasteurs. C'est quelque chose à laquelle chaque chrétien est appelé. Si vous êtes chrétien, vous êtes appelé à un ministère. Ça signifie que vous êtes appelé à mettre vos dons, vos talents, vos capacités, vos ressources au service des autres au nom de Jésus. À chaque fois que vous employez votre vie pour aider quelqu'un au nom de Jésus-Christ, Vous subvenez à leurs besoins. Vous aimez votre prochain comme vous-même. Donc, à partir du grand commandement, on aboutit à deux objectifs pour l'Église. La louange, aime Dieu de tout ton cœur, et le ministère, aime ton prochain comme toi-même. Ensuite, il y a la grande mission. Dans la grande mission, il est dit, « Je veux que vous alliez faire des disciples. » Le mot biblique pour cela, c'est « évangélisation ». Qu'est-ce que l'évangélisation? L'évangélisation, ça signifie « partager la bonne nouvelle ». Partager la bonne nouvelle que Dieu est venu sur terre sous la forme d'un être humain, Jésus-Christ, et qu'il a vécu une vie sans péché, une perfection sur terre, et il nous a montré comment vivre, et nous a montré comment on peut communiquer avec Dieu le Père. Et ensuite, il est mort sur la croix pour nos péchés, et il a été enseveli dans la terre 3 jours, et il est ressuscité le dimanche de Pâques, et est monté au ciel. Et un jour, il reviendra sur terre pour chercher toute sa famille, l'Église de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle, et la Bible dit qu'on doit aller et partager cela avec tous ceux qui ne connaissent pas Christ. Dieu veut que tout le monde le connaisse. Nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu. Vous voyez, vous avez été créés par Dieu, et vous avez été créés pour Dieu. Et jusqu'à ce que vous compreniez cela, votre vie n'aura pas de sens. Donc, un des objectifs de l'Église, c'est de partager la bonne nouvelle, évangéliser, aller et faire des disciples. Ensuite, la Bible dit que Jésus nous a dit de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu a-t-il placé le baptême dans le grand commandement, dans la grande mission? Pourquoi Dieu dit-il que c'est un des 5 objectifs de l'Église? À cause de ce que le baptême représente. Le baptême, c'est l'image de 2 choses. D'abord, c'est l'image de ce qui se passe en vous quand vous devenez chrétien. Le baptême ne vous rend pas chrétien, mais il montre que vous êtes déjà un chrétien. Il montre ce qui s'est passé dans votre cœur. Le baptême, c'est le symbole extérieur d'un engagement intérieur. Et quand nous sommes baptisés, nous disons au monde, « Je n'ai pas honte de dire que je crois en Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de m'identifier comme étant chrétien. » Si vous n'avez pas été baptisé, vous devez être baptisé. Souvent, quand les gens deviennent chrétiens, ils suivent Christ, mais ils attendent longtemps avant d'être baptisés. Ce n'est pas comme ça qu'ils le faisaient dans la Bible. En effet, la Bible dit qu'aussitôt que vous devenez croyant, vous devez être baptisé. Le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, il est dit 3000 personnes ont accepté Christ ce jour-là, et elles ont été baptisées le jour même. Donc si vous n'avez pas été baptisé, ne tardez pas, et faites-le maintenant. Beaucoup de personnes pensent, « Oh, après être devenu un chrétien adulte, je me ferai baptiser. Après avoir appris davantage, je me ferai baptiser. Après avoir atteint une maturité spirituelle, je me ferai baptiser. » Non, non, non. La Bible dit que le baptême, c'est le commencement de la vie chrétienne, et non la fin. Ce n'est pas une remise de diplôme, une fois que vous avez tout appris. C'est le commencement, c'est le premier pas. Ça montre au monde entier que je n'ai pas honte d'être chrétien. Le baptême signifie d'abord que je suis un croyant en Christ. Deuxièmement, il signifie que je fais partie de la famille, parce que la Bible dit que nous sommes baptisés dans le corps de Christ. C'est le rite d'initiation, c'est le symbole, le signal qui dit que je fais partie de l'Église de Dieu. Vous devez donc être baptisé, parce que ça signifie que je fais partie de la communion, de la famille de Dieu. Le baptême n'est pas seulement le symbole de salut, c'est aussi le symbole de la communion fraternelle, qui est un des objectifs de l'Église. Dieu a créé l'Église pour qu'elle soit en communion, un groupe de soutien dans lequel nous n'appartenons pas seulement à Jésus-Christ, mais nous appartenons les uns aux autres, et nous faisons partie de la famille de Dieu. Ensuite, il y a le 5e objectif de l'Église que nous trouvons dans la grande mission. Il est dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé ». L'expression biblique pour cela, c'est « faire des disciples ». Faire des disciples, cela signifie qu'on ne doit pas seulement toucher les gens, mais on doit aussi les enseigner. On ne les mène pas seulement à Christ, à les incorporer dans le corps du Christ, mais on les aide à grandir vers une maturité spirituelle. Donc nous avons l'objectif de la louange, « aime Dieu de tout ton cœur », l'objectif du ministère, « aime ton prochain comme toi-même », l'objectif de l'évangélisation, « aller et faire des disciples », l'objectif de la communion fraternelle dans la famille de Dieu, qui est symbolisé par le baptême, et l'objectif de faire des disciples, les enseignant à faire tout ce que je vous ai commandé. Maintenant, je ne vais pas trop détailler, mais si vous lisez les Écritures, vous allez trouver par exemple dans Jean chapitre 17 que le ministère de Jésus Son ministère nous donne un exemple de ces cinq objectifs. Dans Jean 17, verset 4, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre ». Ça, c'est la louange. Au verset 6, il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde ». Ça, c'est l'évangélisation. Et il dit au verset 8 « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données ». Ça, c'est faire des disciples. Et au verset 12, il dit « Quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom ». Ça, c'est la communion fraternelle. Et il dit au verset 18 « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde ». Ça, c'est le ministère. Le ministère de Jésus est un exemple des cinq objectifs de l'Église. Quand vous lisez dans Actes chapitre 2, versets 41 à 47, nous lisons que l'Église primitive, la première Église à Jérusalem, avait atteint ces cinq objectifs. La Bible dit ceci. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et les croyants étaient tous ensemble, et ils donnaient à celui qui était dans le besoin. Ils étaient chaque jour ensemble, se rassemblant dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Vous avez reconnu les cinq objectifs représentés dans ce passage? Ils les ont baptisés comme un symbole de communion fraternelle et ils se réunissaient chaque jour. Ils louaient ensemble. Ils subvenaient aux besoins des gens, ils évangélisaient les non-croyants, et ils faisaient des disciples en aidant des chrétiens à grandir dans l'enseignement du Nouveau Testament, l'enseignement des apôtres. Un autre exemple que nous avons se trouve dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Paul explique les cinq objectifs dans ce passage. Écoutez cela. Dieu a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, à d'autres d'être évangélistes, et à d'autres d'être pasteurs et docteurs, pour préparer les saints à accomplir les œuvres du ministère, et pour faire progresser le corps du Christ. C'est clair? Il parle du ministère, il parle du corps du Christ qui s'édifie, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, communion fraternelle et de la connaissance du Fils de Dieu, et que nous ayons une maturité, faire des disciples, à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est par lui que tout le corps, coordonné et formant un solide assemblage, s'unit par toutes ses parties, s'édifie lui-même et se développe par amour lorsque chaque partie agit comme elle le doit. Lorsqu'une Église est bâtie sur les cinq objectifs de l'Église, alors la croissance est automatique et l'Église va grandir d'elle-même. Maintenant, selon l'interprétation des versets que l'on a lus, la Bible nous enseigne que l'Église existe pour cinq raisons. Premièrement, nous existons pour célébrer la présence de Dieu dans la louange. La Bible nous dit que la louange devrait être une célébration. La Bible dit dans le psaume 34, verset 4, « Ô, magnifiez l'Éternel avec moi, et célébrons son nom ensemble. » La Bible dit dans le psaume 122, verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. » Et donc, le premier objectif de l'Église, c'est de louer Dieu, de célébrer la présence de Jésus-Christ, parce qu'il est vivant. Et dans l'Église, chaque dimanche est le dimanche de Pâques, parce que nous célébrons la résurrection de Jésus chaque semaine. La louange, c'est le premier objectif de l'Église. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de partager la parole de Dieu avec les non-croyants. Ça, c'est l'évangélisation, c'est le témoignage, et c'est partager la bonne nouvelle. Et nous évangélisons le monde entier, car c'est notre champ de mission. Dans Actes chapitre 20, verset 24, Paul dit « La chose la plus importante que je fasse, c'est d'accomplir ma mission, le travail que le Seigneur Jésus m'a dit d'accomplir, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Savez-vous que Dieu vous a donné une mission pour votre vie? Saviez-vous qu'au moment où vous deveniez croyant, Dieu vous donne une mission spécifique pour votre vie? Et c'est en partie de partager la bonne nouvelle avec votre entourage? Vous êtes peut-être la seule personne chrétienne qu'ils connaissent. Et la meilleure chose que vous pouvez faire pour une personne, c'est de partager Jésus-Christ avec elle. Peut-être qu'ils ne liront jamais la Bible, mais ils verront votre vie, et ils entendront vos paroles. Quelle bonne surprise ce serait de mourir, et d'aller au ciel, et de voir quelqu'un venir vers vous et vous dire, « Je veux te remercier, parce que je suis ici grâce à toi. » J'aimerais vous demander, bien franchement, est-ce que quelqu'un ira au ciel grâce à vous? Avez-vous partagé votre foi avec quelqu'un d'autre? C'est un des objectifs de l'Église. Et c'est un des objectifs que Dieu a pour votre vie, de partager la parole de Dieu par l'évangélisation. Le troisième objectif de l'Église, c'est d'incorporer la famille de Dieu, c'est-à-dire de faire entrer la famille dans la communion de Dieu. Et on doit nous encourager les uns les autres en tant que membres du corps du Christ. La Bible dit dans Éphésiens 2, 19, « Vous êtes concitoyens avec les saints de la maison de Dieu et vous êtes membres de sa famille avec les autres chrétiens. » Dieu veut que vous fassiez partie de la famille de son Église et Dieu veut que vous ayez la fraternité et le soutien d'autres croyants. Le quatrième objectif, c'est éduquer le peuple de Dieu. Éduquer le peuple de Dieu, on doit l'aider à croître en faisant des disciples. On doit l'aider à atteindre une maturité spirituelle. Ce verset que nous venons de lire dans Éphésiens 4 dit ceci. On doit édifier le corps du Christ jusqu'à ce qu'on ait atteint une maturité spirituelle, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça ne suffit pas de gagner les gens à Christ. On doit les aider à devenir comme Jésus-Christ, dans leurs actions, dans leurs attitudes, dans leurs paroles, dans leurs pensées, et dans chacun des domaines de leur vie, dans leurs relations et à la maison et au travail. Donc, faire des disciples est un objectif de l'Église. Ensuite, le cinquième objectif, c'est de démontrer l'amour de Dieu à travers le ministère. La Bible dit qu'on doit être des exemples de l'amour de Dieu pour le monde. Et en tant que pasteur et enseignant, on doit équiper les croyants dans la famille de notre Église pour leur ministère personnel. La Bible dit dans Éphésiens 4, 12 que les responsables d'Église, les pasteurs et les enseignants doivent perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Voilà les cinq objectifs de l'Église. Ce que vous devez faire, c'est d'utiliser vos propres mots et les placer dans une seule phrase. Je vais vous lire l'objectif de l'Église dont je suis le pasteur, l'Église de Saddleback. Je vais vous le lire. Voici notre objectif. Mener les gens à Jésus-Christ et les faire devenir membres, les faire croître pour devenir comme Christ et de les équiper pour leur ministère dans l'Église et pour la mission dans leur vie dans le monde, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Écoutez encore une fois cette phrase bien attentivement. D'abord, on doit mener les gens à Jésus. Ça, c'est de l'évangélisation. Et les faire devenir membres, ça, c'est la communion fraternelle. Ensuite, les faire croître spirituellement pour devenir comme Christ, ça, c'est faire des disciples. Et de les équiper pour leur ministère dans l'Église, c'est le service ou le ministère. Et pour la mission de leur vie dans le monde, c'est encore l'évangélisation, afin que le nom de Dieu soit glorifié, ça c'est la louange. Je veux vous faire remarquer trois choses pour l'efficacité de votre déclaration d'objectif. D'abord, vous devez le rédiger en termes de résultats, et non en termes d'activité. Autrement dit, l'objectif de votre Église doit dire, voici ce que nous voulons faire en tant que résultat. Nous voulons voir des vies changer. Nous voulons voir des gens se tourner vers Christ. Nous voulons aussi les voir devenir membres de la famille de Dieu. Nous voulons les voir croître spirituellement. Nous voulons les aider et les équiper pour leur ministère dans l'Église. Et nous voulons les former pour qu'ils accomplissent leur mission dans le monde et en partageant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Afin de glorifier Dieu, nous voulons leur apprendre à vivre une vie de louange pour qu'ils atteignent les cinq objectifs de l'Église. Remarquez que cette déclaration d'objectifs encourage la participation de tout le monde. Tout le monde peut y participer. Les objectifs ne sont pas quelque chose que les pasteurs ou que les responsables d'Église font. Les objectifs de l'Église sont quelque chose que chaque chrétien a la responsabilité d'atteindre. Et ensuite, le plus important, vous devez prendre ces objectifs et vous les organiser en un processus graduel. Remarquez que, bien évidemment, l'évangélisation précède le fait de faire des disciples. C'est une étape naturelle. Vous devez d'abord mener quelqu'un à Christ avant de pouvoir l'aider à grandir. Et ils doivent grandir avant de pouvoir servir dans leur ministère de manière effective. Et en grandissant et en étant efficaces dans leur ministère, ils deviendront des témoins pour le monde entier. Voici ce que nous faisons dans notre Église. Nous amenons des gens à l'Église, nous les menons à Christ, nous les faisons grandir vers une maturité spirituelle, nous les formons pour leur ministère et nous les envoyons dans le monde pour partager l'Évangile. Nous les amenons à l'Église, nous les édifions, nous les formons pour le ministère et nous les envoyons dans le monde. Et nous répétons simplement ce processus à chaque fois, encore et encore. L'église de Saddleback est une des plus grandes églises des États-Unis. Et notre église a seulement 18 ans, et nous avons débuté avec juste 7 personnes. Une des raisons pour laquelle elle a tellement grandi, c'est parce que nous faisons seulement 5 choses. Nous encourageons la louange, l'évangélisation, la communion fraternelle, le ministère et faire des disciples. Et nous répétons cela souvent encore et encore. C'est notre objectif, d'impliquer chaque chrétien dans la réalisation de tous les 5 objectifs. Vous les amenez à l'Église et les amenez à Christ. Vous les faites croître spirituellement. Vous les formez pour leur ministère et vous les renvoyez à nouveau dans le monde. Et vous faites tout cela pour glorifier Dieu, ce qui est votre louange, telle qu'elle est écrite dans Romains chapitre 12. Bon, ça ne suffit pas de simplement découvrir les objectifs de Dieu. Ça ne suffit pas simplement de définir les objectifs de Dieu. Vous devez aussi communiquer les objectifs de Dieu avec chaque membre de votre Église. Et vous devez les communiquer encore et encore et encore. Le rôle primordial des responsables de l'Église, c'est de continuellement clarifier, définir et communiquer les objectifs de votre Église. Comment fait-on cela? Comment est-ce que je peux communiquer les objectifs de Dieu de manière nouvelle aux membres de la famille de mon Église? Ce sont des techniques que vous allez devoir développer. Je vais vous donner 5 manières différentes pour communiquer les objectifs de l'Église. Avec ces techniques, vous pouvez enseigner vos objectifs pour que vos membres s'en souviennent. D'abord, utilisez des slogans. Les slogans sont des courtes phrases dont les gens se souviennent. Nous ne nous souvenons pas vraiment de longues, des histoires ou des phrases ou paragraphes. On se souvient des phrases simples et courtes, telles que « Chaque membre a un ministère ». C'est un slogan qu'on utilise à Saddleback. « Chaque membre a un ministère ». Et Dieu veut que tout le monde le connaisse. En voilà un autre qu'on utilise. Dieu veut que tout le monde le connaisse. Vous pouvez utiliser des symboles. Les symboles sont des outils puissants que les dirigeants célèbres utilisent. Il existe des symboles que si je vous les montrais, pourraient vous faire pleurer, et d'autres dont vous serez fiers. Par exemple, si je vous montre le drapeau de votre pays, vous allez avoir un sentiment de fierté et de joie dans votre pays. Si je vous montrais le symbole de la croix, en tant que chrétien, vous comprendriez ce symbole. Si je vous montrais, par exemple, le marteau et la faucille du communisme, ça c'est un symbole. Si je vous montrais un croissant de lune, qui est l'emblème de l'islam, ça c'est un symbole. Si je vous montrais la croix gammée de la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est un symbole qui va probablement créer un sentiment de haine dans votre cœur à cause de ce qu'il représente. Tous les dirigeants célèbres comprennent le pouvoir des symboles. Et dans quelques minutes, je vais partager avec vous les 2 symboles que nous utilisons dans notre Église qui nous aident à expliquer les 5 objectifs. Vous pouvez utiliser ces symboles ou vous pouvez créer les vôtres. Ça n'a pas d'importance, mais ça aide les gens à se souvenir des choses visuellement quand vous leur montrez un symbole des objectifs. Une 3e manière d'enseigner les objectifs de l'Église, c'est en enseignant la Bible. Et quand vous enseignez la parole de Dieu et quand vous lisez la parole, vous vous y référez constamment. Que dit la Bible? Ce n'est pas mon opinion qui compte, ce n'est pas ce que pensent les autres, ce ne sont pas les traditions, mais ce que la Bible dit. Parce que la Bible est fiable, et il n'y a rien d'autre qui soit aussi fiable. Vous pouvez enseigner les objectifs de Dieu en racontant des histoires. Racontez comment les chrétiens ont grandi dans leur foi. Racontez comment certains chrétiens ont rendu service aux autres. Racontez comment la communion fraternelle a aidé les gens à surmonter des moments difficiles. Racontez comment des chrétiens ont partagé leur foi avec des non-chrétiens. Racontez des moments marquants de louange. Quand vous racontez des histoires, les gens comprennent la vérité de façon beaucoup plus claire que si vous leur expliquiez. Et puis, soyez spécifique. Dites, voici comment nous procédons dans notre Église. Voici comment nous faisons de l'évangélisation dans notre Église. Voici comment nous enseignons la croissance spirituelle. Voici les classes que nous offrons. Voici les études bibliques que nous avons. Voici les petits groupes pour vous aider à grandir. Donnez les détails spécifiques concernant la manière dont votre Église essaye d'atteindre les objectifs fixés. Une des façons que nous avons communiqué les objectifs de Dieu à l'Église de Saddleback, c'est d'offrir une classe d'adhésion. Une fois par mois, j'enseigne cette classe à tous les nouveaux membres qui se joignent à notre Église ce mois-ci. Et j'explique les objectifs de l'Église dans cette classe. Une fois par an, je donne mon sermon annuel. Chaque mois de janvier, je prêche un sermon appelé « Pourquoi l'Église existe-t-elle ?». C'est le même sermon chaque année. J'utilise seulement des histoires nouvelles. Je dis « Mes amis, le temps est venu de revoir pourquoi nous allons à l'Église ». Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Et nous répétons cela à maintes reprises parce que personne ne se souvient en l'écoutant qu'une seule fois. Vous devez l'enseigner maintes et maintes fois. Vous pouvez insister chaque mois, sur les objectifs de votre Église. Par exemple, un mois, vous insistez sur la louange, et le mois suivant, vous insistez sur l'évangélisation, le mois suivant, sur le fait de faire des disciples, et le mois suivant, sur la communion fraternelle, et le mois suivant, sur le ministère. Et vous pouvez organiser des activités, des études bibliques qui vous aideront à revoir ces objectifs. Vous pouvez les imprimer dans un livret, ou si vous avez un bulletin ou un programme que vous distribuez aux gens, vous pouvez leur dire « Voici les objectifs de notre Église ». Ainsi, quand les gens viennent, ils voient de quoi il s'agit. Et puis, bien sûr, il est très important que vous enseigniez cela très, très, très souvent. Expliquez les versets bibliques qu'on a déjà étudiés, par exemple dans Actes chapitre 2. N'ayez pas peur de vous répéter, parce qu'on doit l'entendre plusieurs fois, afin de pouvoir mémoriser cela dans nos pensées et dans nos cœurs. Maintenant, ça ne suffit pas d'enseigner les objectifs de l'Église. Ça ne suffit pas de définir les objectifs de l'Église. Ça ne suffit pas de les expliquer aux gens. Il vous faut aussi mettre en pratique ces objectifs dans tous les domaines de votre Église. Et la solution, c'est l'équilibre. Vous savez, l'équilibre est un principe selon lequel Dieu a créé le monde. Quand Dieu vous a créé, il vous a donné deux jambes pour que vous soyez équilibrés. Si vous n'aviez qu'une seule jambe, il vous serait très difficile de rester debout tout le temps. Il est probable que vous tomberiez. Il vous a donné deux mains pour que vous soyez équilibré quand vous tenez des choses. Il vous a donné deux oreilles pour entendre de façon équilibrée. Il vous a donné deux yeux pour voir de façon équilibrée. Quand vous construisez une maison, les murs doivent être bien équilibrés. Ainsi, quand vous posez le toit, elle ne s'effondre pas. Et dans chaque domaine de la vie, Dieu veut qu'il y ait de l'équilibre. Le monde est équilibré et de telle manière que la terre tourne juste comme il faut. Et la gravité nous fait rester ici sur la terre. C'est ainsi que Dieu l'a prévu. Maintenant, concernant l'Église, Dieu veut que votre Église soit équilibrée autour des cinq objectifs. Laissez-moi vous dire que si vous n'avez pas de plan pour faire cela, votre Église sera déséquilibrée. Si vous n'avez pas de plan pour équilibrer équitablement et insister de la même manière sur la louange, l'évangélisation, la communion fraternelle, le ministère et le fait de faire des disciples, alors vous aurez tendance à attacher trop d'importance à un objectif et à négliger les autres. Vous dites comment ça peut se faire? Ça se produira parce que chacun a un objectif qu'il préfère par rapport aux autres. Je vous ai expliqué les différents objectifs et certains d'entre vous avaient une passion pour la louange et vous voulez avoir des bons services de louange. Certains d'entre vous avaient une passion pour l'évangélisation, vous voulez mener des non-chrétiens à Christ. Pour certains d'entre vous, votre passion n'est pas l'évangélisation, mais c'est d'aider les chrétiens à grandir dans leur foi et à être dans le plan de Dieu. Et d'autres ont une passion pour le ministère, aider les gens de manière pratique lorsqu'ils sont dans la peine et dans le besoin. Dieu nous place dans la même Église pour que tout puisse être accompli. Et donc, il donne à chacun une passion différente pour un objectif différent. Mais si vous n'avez pas de plan, et je vais vous parler de ce plan dans la prochaine session, pour construire les objectifs de votre Église de façon équilibrée, vous allez avoir tendance à trop insister sur l'objectif que le pasteur ou le responsable spirituel préfère et va favoriser. Par exemple, si je suis pasteur et si mon don spirituel est l'évangélisation, alors je vais avoir tendance à insister sur l'évangélisation et négliger tous les autres objectifs. Et je vais construire une église dans laquelle nous allons mener beaucoup de gens à Christ, mais personne ne va grandir dans sa foi. D'autre part, si je suis pasteur et si j'ai le don d'enseigner, et que dans mon cœur je désire d'aider les gens à grandir, je vais les aider à grandir et nous allons avoir beaucoup de croyants qui croisent dans le Seigneur, mais personne ne va se convertir. Ou si dans mon cœur, j'ai une passion et le don de rendre service à ceux qui sont dans le besoin, de répondre aux pauvres, des malheureux, des sans-espoir. Je vais passer mon temps à développer cela, et nous allons construire une église qui a beaucoup de ministères auprès des gens faibles et dans le besoin. Mais la croissance spirituelle n'a pas lieu. Il se peut qu'il n'y ait pas d'évangélisation. Ou je peux avoir à cœur la louange, et avoir des bons services de louange, mais nous négligeons les autres objectifs. Où on peut avoir une communion chaleureuse entre chrétiens et nous sentir proches les uns des autres et nous aimer en tant que frères et sœurs en Christ, mais on n'atteint pas les autres objectifs. Pour que vous ayez une église bien saine, équilibrée, vous devez avoir un plan qui équilibre les objectifs de l'Église. Et nous allons parler de cela dans notre prochaine session.